à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Lucie Sourza, pardon, bonjour.
Bonjour.
Lucie Sourza, merci d'être venue pour ce deuxième entretien. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université Toulouse-Capitole et que vous êtes notamment spécialisée sur les questions de fin de vie et de soins palliatifs dans les territoires. Vous aviez organisé un colloque qui a été tout à fait remarquable et salué par tout le monde fin 2023, qui s'appelait Fin de vie et territoire. Les actes de ce colloque, qui était un colloque transversal, pluridisciplinaire, ont été publiés aux éditions hospitalières en janvier 2024. La loi, le projet de loi sur la fin de vie est actuellement en débat. En fait, ce n'est pas un projet de loi, mais il y a deux projets de loi, un sur les soins palliatifs, l'autre sur ce qu'on peut qualifier l'euthanasie et le suicide assisté. Donc, je voudrais, dans ce deuxième entretien, que vous nous fassiez le point pour nos auditeurs, le point de vue d'un juriste spécialisé de ces questions sur les textes tels qu'ils sont, ces deux textes, et qu'est-ce qu'ils apportent par rapport à ce qu'on a examiné dans notre précédent débat sur la loi de Leonetti et la loi Claeys-Leonetti et les différents décrets d'application et prolongements qui ont suivi. Donc, merci de nous d'éclairer notre lanterne sur ces deux textes. Je vous laisse la parole.
Alors merci pour votre invitation une fois de plus. Alors écoutez, effectivement, nous avons deux propositions de loi à ce jour. Une première proposition de loi qui est relative à l'aide active à mourir et une proposition de loi qui vise à renforcer les soins palliatifs. Les deux propositions de loi, vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, ont été donc adoptées en première lecture le 27 mai dernier par l'Assemblée nationale. Attention, bien sûr, ce n'est pas la fin de l'histoire, hein, puisqu'il y a encore le passage au Sénat, hein, qui est prévu à l'automne prochain. Et comme ce n'est pas une procédure accélérée, le texte reviendra à l'Assemblée nationale, reviendra au Sénat, enfin, on suivra la navette parlementaire.
Je précise quand même pour nos auditeurs que s'il y a désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, à ce moment-là, il y a une commission mixte qui est réunie, hein, qui représente à la fois des représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale et qui essaye de se mettre d'accord sur un projet intermédiaire. Et en dernier recours, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot.
Voilà.
Mais tout ça peut prendre...
Oui, ça peut prendre du temps.
Du temps.
L'objectif annoncé, c'est une adoption avant l'année prochaine, hein, mais on verra ce qui va se passer au sein des deux chambres dans les mois à venir, puisque le passage au Sénat est prévu pour l'automne. Le Sénat n'est pas forcément parfaitement d'accord avec tous les points qui ont été jusqu'à présent adoptés dans les deux textes, enfin pas dans les deux textes mais plutôt dans le texte sur l'aide active à mourir, puisque le texte relatif aux soins palliatifs, il a été unanimement adopté, donc ça, il n'y a pas de difficulté de ce point de vue là c'est plus le texte relatif à l'aide active à mourir qui laisse encore planer un certain nombre d'incertitudes.
Et est-ce que ces deux textes sont indissociablement liés, ou est-ce qu'on peut imaginer que l'un serait adopté pendant que l'autre resterait en discussion?
Ah mais totalement, hein, ils ne sont pas dépendants l'un de l'autre, hein, on pourrait avoir le texte sur les soins palliatifs qui serait définitivement adopté et entrerait en vigueur, tandis que l'autre texte sur l'aide active à mourir resterait un petit peu dans les tiroirs, entre guillemets.
Oui, ou dans le débat entre le Sénat, qui ne serait pas
complètement
en phase, d'accord. Et ça pourrait nous amener donc avec des mois et des mois de plus.
Bien sûr.
Donc, voilà l'état de lecture des textes. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans chacun de ces deux textes qu'il n'y avait pas précédemment dans l'arsenal juridique?
Alors, donc, je vais commencer par le texte, même si la plupart du temps, les gens préfèrent se focaliser sur l'aide active à mourir. Je vais commencer, moi, sur le texte relatif aux soins palliatifs.
Oui, parce que merci de le faire, parce qu'on en parle peu, oui. Et ça me paraît être la chose, au fond, qui est la plus importante parce qu'elle concerne vraiment tout le monde.
Exactement. Et puis, on a quand même un très fort précédent du point de vue de l'arsenal législatif à propos des soins palliatifs qu'il ne faut pas occulter, qu'il ne faut pas ignorer. Et donc, ce texte du 27 mai vient vraiment compléter les quatre autres grandes lois qui ont touché à cette question de la prise en charge palliative.
Que vous aviez rappelé dans notre précédent débat.
Exactement. Donc en ce qui concerne ce texte sur les soins palliatifs, je vais évoquer les points qui me semblent être les plus majeurs de ce texte. Tout d'abord, nous avons le premier article qui va redéfinir cette notion de soins palliatifs puisqu'il va englober la notion de soins palliatifs va être englobée dans une nouvelle notion qui va s'intituler soins palliatifs et d'accompagnement. Donc, nouvelle notion. Quel est l'objectif de cette redéfinition terminologique ? Eh bien, l'objectif, c'est d'engager la démarche palliative beaucoup plus précocement. Parce que jusqu'à présent, eh bien, le reproche qu'on peut faire à la prise en charge palliative sur notre territoire, c'est la prise en charge beaucoup trop tardive du patient en soins palliatifs. Donc cette nouvelle notion a vraiment pour objectif de voir les soins palliatifs sous un nouveau jour et de permettre aux personnes qui en ont besoin, eh bien, par exemple quand ils ont un diagnostic d'une pathologie qui est incurable, ouais. Voilà, exactement, qu'ils puissent bénéficier de cet accompagnement palliatif le plus en amont possible de la pathologie. Donc c'est vraiment la question de l'anticipation qui va dominer la prise en charge palliative et l'accompagnement du patient.
Est-ce que ça suppose une unité de soins particulière ou est-ce que ces soins en amont, très en amont, peuvent être faits à domicile ?
Alors, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent aux patients. Donc, soit la prise en charge hospitalière, par exemple, dans une unité de soins palliatifs. Mais tous les départements n'en sont pas pourvus, malheureusement. Vous avez également dans certains services qui n'ont rien à voir avec des unités de soins palliatifs, ce qu'on appelle des lits identifiés de soins palliatifs. Donc, par exemple, dans un service de gastro-entérologie, eh bien, vous allez avoir quelques lits identifiés pour du palliatif. Donc, ça, c'est en milieu hospitalier. Et ensuite, vous avez la prise en charge soit donc, en ambulatoire, en hôpital, soit à domicile, avec des équipes qui sont vraiment formidables, qui sont les équipes mobiles de soins palliatifs. Donc, ce sont des équipes qui se déplacent et qui viennent jusqu'à votre domicile pour votre prise en charge.
Dans ces équipes, donc, il y a des gens spécialement formés.
Tout à fait.
Qui sont infirmières.
Oui.
Et quoi d'autre ?
Alors, on peut avoir...
psychologue.
Oui, voilà, par exemple, c'est des équipes pluridisciplinaires, voilà, qui sont mobilisées exclusivement pour l'accompagnement palliatif du patient, mais à son domicile. Et les équipes mobiles de soins palliatifs font un travail vraiment remarquable et qu'il faut absolument soutenir dans les années à venir.
Et ces équipes, il en existe dans tous les départements ou pas ?
Oui, en principe, hein, elles sont plutôt bien déployées, hein, ces équipes. Alors ensuite, ça, c'est ce qui m'amène à évoquer le deuxième point de cette fameuse loi. C'est la loi qui prévoit notamment la structuration d'organisations territoriales pour mettre en œuvre les soins palliatifs et d'accompagnement sur l'ensemble du territoire. Donc là, l'objectif, c'est de créer un socle territorial efficace pour catalyser cet accompagnement palliatif sur l'ensemble du territoire.
De sorte qu'il n'y ait pas, comme on l'avait dit précédemment, des zones blanches en quelque
Exactement.
Sorte, dans lesquelles les gens n'ont pas accès dans leur département. Alors ils peuvent changer de département, etc., mais ça devient compliqué.
Exactement.
Donc c'est ça, le but, c'est de lutter contre ça aussi.
Exactement. Voilà. Et enfin, troisième point qui me semble important de relever, c'est un point cette fois-ci plus procédural, plus contentieux. C'est-à-dire que le texte, cette proposition de loi, met en place un référé spécifiquement dédié à la prise en charge devant les juridictions administratives. Ça, c'est quelque chose de très singulier.
Ah oui, ça, c'est une innovation majeure.
Majeure.
Donc, un référé pour nos auditeurs, c'est...
Alors, c'est un recours d'urgence.
Un recours d'urgence qui va s'imposer si le juge est d'accord.
Oui.
Donc, il y a un juge administratif qui est
voilà,
saisi.
C'est le... Ça, alors, on attend le décret, hein, enfin, on verra ouais. ce que prévoit le décret concrètement. Mais le patient, ou si ce dernier, bien sûr...
Ou sa famille.
Voilà, ne peut en mesure... Sa famille, ses proches, peuvent faire un référé, pourront ouais. faire un référé devant un juge...
Ouais.
de l'urgence pour demander à ce que ce juge prononce l'obligation d'une prise en charge palliative du patient.
D'accord. Donc, les gens qui estiment que leurs droits, ils n'ont pas accès à leurs droits comme ils devraient y avoir accès, hein, puisque je rappelle que c'est depuis 2005 que ce droit aux soins palliatifs a été créé, mais qu'aujourd'hui, selon qu'on habite dans une métropole ou à la campagne, ben, c'est pas la même chose. Et donc là, on pourrait faire un référent disant « j'ai un droit, appliquez-le ».
Exactement.
C'est ça qui est introduit.
Exactement. Alors après, ben, je suis curieuse, personnellement, d'un point de vue strictement juridique, je suis curieuse de voir comment ça va se traduire. Dans les faits.
C'est dans les décrets d'application que ça sera précisé.
Exactement.
La loi ne précise pas ça.
Non.
Elle ouvre le droit à référer.
Exactement.
Devant, donc c'est une procédure d'urgence, un référé, devant un tribunal administratif.
Oui.
Parce que là, on est dans l'urgence. Souvent, le soin palliatif, on ne peut pas dire, on décidera en 3 mois.
Alors, attention, parce que justement, c'est un point aussi important, le palliatif, ça, parfois c'est deux ans avant la fin de vie de la personne. Hein. Ça peut être, c'est le but d'ailleurs hein, de cette proposition de loi, c'est de faire une prise en charge très en amont. De la fin de vie, le plus en amont possible en réalité. Mais bon, vous avez raison, malgré tout, dans la plupart des situations, en tout cas aujourd'hui,
on ne peut pas laisser traîner trop les choses.
Exactement.
Donc il faudra quand même que les juridictions, parce que c'est vrai que même en cas de référé, les juridictions administratives, souvent, il y a une file d'attente, si
Exactement.
Je peux dire.
Oui.
Donc ça suppose quand même une organisation du droit un peu spécifique peut-être, mais c'est les décrets d'application.
C'est les décrets qui préciseront tout ça.
Qui préciseront tout ça.
Exactement.
Écoutez, Lucie Sourza, on ne va pas, dans ce laps de temps, aborder la deuxième loi, celle sur l'aide active à mourir, c'est-à-dire, soyons simples, l'euthanasie et le suicide assisté. On va garder ça pour notre troisième entretien.
Très bien.
Merci pour tout cet éclairage sur le projet de loi sur les soins palliatifs.
Merci beaucoup.